Rádio Alfa, 12 horas.
Bonjour à tous. Une soixantaine de vols annulés en Belgique. La tempête Ciara arrive sur l'Europe avec des vents à 130 km/h. Les compagnies aériennes ont donc décidé d'annuler des vols depuis et à destination de Bruxelles. En France, c'est 35 départements qui sont toujours en vigilance orange, vent violent et vagues submersion, du Finistère au Bas-Rhin, en passant par la région parisienne. Le plus gros de l'épisode venteux est attendu pour cette nuit. Et cette tempête sur la moitié nord du pays fait également partie des conditions qui permettent d'apprécier le déclenchement du plan alerte enlèvement, a précisé le procureur d'Angers. En effet, une petite fille d'un an a été enlevée par sa maman vendredi soir et on ne connaît pas les conditions d'hébergement de l'enfant. La petite fille est métisse, elle a les yeux noirs, les cheveux couleur brun foncé, courts et frisés. Sa maman, âgée de 40 ans, est vêtue d'une doudoune et d'un legging. Elle est susceptible de se déplacer en transport en commun dans l'agglomération angevine. Si vous pensez voir l'enfant ou avoir la moindre information, n'intervenez pas. Appelez le 197 ou envoyez un mail à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr. Le coronavirus a dépassé le SRAS. La maladie a désormais fait plus de 800 morts, 811 exactement. Alors qu'en 2002, le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, avait fait 774 morts. Hier, une première victime non chinoise est décédée, un ressortissant américain qui est mort à l'hôpital de Wuhan, foyer chinois du coronavirus. En France, 11 personnes sont touchées par l'épidémie, dont une famille anglaise. 5 cas confirmés hier. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, doit se rendre dans la journée à Contamine-Montjoie, où réside la famille britannique. Tous les habitants et touristes présents dans les alentours pourront se faire tester dans la journée pour être sûrs de ne pas être infectés. Le rugby pour finir avec la suite du tournoi des Six Nations. Hier, l'Irlande s'est imposée 24-14 sur le Pays de Galles et l'Angleterre a battu l'Écosse 13-16. Deuxième sortie des Bleus cet après-midi face à l'Italie. Ils ont rendez-vous à 16h au Stade de France et les féminines ont donné l'exemple hier en s'imposant 45-10 face aux Italiennes. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bon dimanche à tous.
Nona edição da Grande Noite de Fado em Paris.
Miúdo da rua, nascido do vento.
Nina Tavares, Cláudia Costa, Júlia Silva, Manuel Miranda, Adriano Dias e Joaquim Campos, acompanhados por Manuel Miranda na guitarra portuguesa, Ana Luísa na viola de fado e Tony Correia no baixo. Apresentação de Odete Fernandes. Nona Grande Noite de Fado de Paris, dia 28 de fevereiro, pelas 20 horas, na Sala Vasco da Gama. Informações e reservas pelo telefone 01-4510-9860 ou em radioalfa.net.
Bon chéri, on vérifie une dernière fois avant de partir.
Ok, ok.
Alors, les valises.
Dans le coffre.
Les vélos.
Sur le toit.
Les enfants.
Les enfants derrière.
Le GPS.
Sur le pare-brise.
Ok. Et la banque.
Ah ben la banque, en ligne.
CIC Hyperbanco, la banque qui vous offre tous les services d'un grand groupe sans renier vos racines, est aussi une banque en ligne. À retrouver en agence ou sur cic-hyperbanco.com. C'est ça, une banque ouverte sur deux mondes.
CIC, construisons dans un monde qui bouge.
O Jornal do Desporto nas manhãs da Rádio Alfa, agora com 4 edições, às 6h30, 7h30, 8h30 e 10h30. Apoio AGI, Gabinete de Gestão e Contabilidade, telefone 01-48-28-2860. Desporto é na Rádio Alfa.
Nunca é tarde. Das 16 às 20, com Vítor Santos.
Nunca é tarde.
Da Rádio Alfa.
Les ventes flash Renault, c'est maintenant.
Au sujet des ventes flash Renault, je n'ai qu'une chose à dire, tenez-vous prêts. Les ventes flash, voilà, c'est flash parce que ça ne dure pas. Et c'est flash parce que ce sont des affaires immanquables. Alors venez chez Renault et bénéficiez d'offres exceptionnelles sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. C'est parti.
Offre valable du 3 au 18 février dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Voir conditions sur Renault.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron,
On est dans les choux, c'est ça?
Bah dans le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et demain et après-demain, le chou-fleur est à 1,29€ la pièce.
Non.
Ah si patron, 1,29€ la pièce et origine France en plus, hein. Ah, le chou-fleur à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire.
Et ça te fait rien. Des soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues.
Oh pardon patron, hein, désolé, hein. Mais à 1,29€ le chou-fleur, on est mal.
T'arrêtes.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Radio Alpha, 98.2.
Passagem de nível. Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, c'est dimanche 9 février, voilà le menu. On va commencer avec le président du conseil départemental du Val-de-Marne, monsieur Christian Favier, qui est parmi nous dans les studios. On va parler de situation politique, sociale, économique en France, mais également de tout ce qui est en train de se passer, tout le paquet fiscal du gouvernement, ce qui concerne les collectivités territoriales. Sans oublier, bien entendu, la récente inauguration, la Maison du Portugal à Champigny-sur-Marne. Après, on ira au cinéma d'étoile en étoile. Un film d'Antonio Amaral qu'on pourra voir Saint-André-des-Arts au cinéma le parti du 19 février. Plus tard, on ira au théâtre. Une nouvelle mise en scène de la pièce Flore Bella, la sœur du rêve, au théâtre du gouvernail Paris 19e. Et on va parler également de la réforme des retraites, cette fois-ci vue par les avocats. Les avocats qui aussi sont dans la lutte. Monsieur Christian Favier, avant tout, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes venu en voisin, c'est le cas de le dire, puisque l'hôtel du département.
Pas très loin.
Chez nous, on le voit. Alors, comment est-ce que vous voyez la situation actuelle? Bon, parce que vous avez du recul, vous avez aussi un certain nombre de responsabilités. On sait que bon, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions. On parlera de la réforme des retraites, si vous voulez bien, parce que ça concerne aussi les fonctionnaires territoriaux. Plus de taxes professionnelles, taxes d'habitation, c'est fini. La taxe foncière, ça va disparaître aussi. Alors, comment on fait pour diriger un département?
Oui, on est dans une situation effectivement difficile, notamment à travers la réforme fiscale qui est actuellement en cours pour les collectivités, parce que c'est vrai que, par exemple, le département qui va voter son budget demain, ça sera le dernier budget où le département, les élus pourront voter, par exemple, la taxe foncière, puisqu'à partir de 2021, cette taxe foncière sera supprimée pour les départements, le gouvernement ayant trouvé là la ressource pour essayer de compenser la suppression de la taxe d'habitation pour les communes. Et ça ne suffira pas, puisque bon, on n'est pas sur tout à fait les mêmes montants. Ce qui veut dire qu'à partir de l'an prochain, par exemple, les départements n'auront plus aucune autonomie fiscale, c'est-à-dire on ne votera plus aucune taxe et on sera dépendant uniquement des dotations de l'État. Normalement, à travers notamment une part de TVA qui devrait nous être versée, mais on sera extrêmement fragilisé d'une certaine manière, puisqu'on n'aura plus d'autonomie, on ne pourra plus décider nous-mêmes de nos recettes.
Alors, si je me rappelle bien, il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, l'État devait au département un demi-milliard. Est-ce que cette situation a été réglée? Est-ce que ça a empiré? Ça s'est amélioré?
Non, cette situation, elle continue de s'aggraver, parce que depuis maintenant de nombreuses années, depuis qu'un certain nombre de compétences qui étaient celles de l'État ont été transférées au département, notamment des compétences sociales, comme le RSA, en particulier, mais pas seulement, aussi l'aide à l'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, l'État n'a jamais compensé intégralement, évidemment, ce transfert. Et donc, d'année en année, évidemment, ce déficit se creuse. Aujourd'hui, pour nous, il représente quasiment une année globale de budget. On est à plus d'un milliard et demi maintenant non compensé, ce qui représente une année d'un budget comme celui du département du Val-de-Marne.
Alors, pour les Val-de-Marnais, qu'est-ce que ça veut dire dans la vie quotidienne? Parce que ça a des conséquences négatives.
Ça a des conséquences négatives, parce que dans la vie quotidienne, ça veut dire qu'évidemment, pour répondre à des besoins qui sont toujours de plus en plus importants, je pense notamment au plan social, eh bien, comme ces budgets sont de plus en plus contraints, on est obligé de faire des efforts de gestion considérables et parfois de ne pas pouvoir répondre toujours à ce qu'on souhaiterait faire. Par exemple, on est dans un département qui continue de gagner de la population. On a besoin de construire des collèges supplémentaires, on a besoin de construire des équipements supplémentaires, de mieux répondre, par exemple, aussi aux personnes âgées, aux personnes handicapées. Et de ce point de vue, il faudrait, par exemple, la maison départementale du handicap, aujourd'hui, souffre de ne pas avoir suffisamment de personnel pour pouvoir répondre. Et on a des délais de réponses qui sont trop longs. Alors, c'est pas propre au Val-de-Marne, c'est vrai donc pour toutes ces maisons départementales du handicap en France. Et il y a d'ailleurs aujourd'hui des mouvements de protestation de la part des associations, parce que il y a une situation qui malheureusement parfois se dégrade. Donc tout ça, c'est les conséquences notamment donc de ces transferts de charges de l'État qui n'ont pas été compensés aux collectivités. Bon, malgré tout, on essaye évidemment d'apporter au mieux des réponses aux habitants. Et il y aura quand même dans le budget que nous allons voter demain des projets très importants. Je pense ici le nouveau collège de Valenton, par exemple, qui je vais poser la première pierre le 22 février, donc dans quelques jours.
La semaine prochaine.
La semaine prochaine, des équipements culturels qui vont continuer de se développer malgré tout. Par exemple, à Champigny-sur-Marne, on va ouvrir le nouveau musée de la Résistance le 29 février. Sur les bords de Marne, il y aura.
Il existait déjà.
Il existait, dans, mais dans des conditions très contraintes, très.
Rue du Monument.
Rue du Monument, et donc il sera transféré en bord de Marne. Enfin, toutes les salles d'exposition sont transférées en bord de Marne, dans un lieu beaucoup plus grand, beaucoup plus accessible, et on espère bien évidemment que beaucoup de monde viendra découvrir en tout cas la richesse de ces collections.
Alors une partie des ressources venait justement de la taxe professionnelle. Là, bon, on va pas parler de, on va parler de bassin d'emploi, à commencer par Orly. Quelle est la situation actuelle exactement? C'est parce que bon, le département avait un certain nombre d'idées, développer justement ce côté-là, ce bassin.
Le développement d'Orly continue. Alors avec quand même. Une contrainte qui est très, très importante, c'est que c'est un aéroport qui est situé en milieu urbain. Mmh. Et donc, nous souhaitons un développement de l'aéroport, mais qui ne soit pas, qui ne se traduise pas par des nuisances supplémentaires pour les riverains. Donc, nous travaillons et nous sommes satisfaits du fait qu'il y a quand même des investissements importants qui étaient faits sur l'aéroport pour le moderniser. Hein, il y a eu plus de 500 millions d'euros pour créer un bâtiment supplémentaire de jonction entre Orly Ouest et Orly Sud.
Maintenant, on appelle ça Orly 3.
Maintenant, c'est pas classé par numéro. Mais
c'est micmac pour y rentrer. Hein. Voilà, c'est une confusion totale pour les passagers.
Pour l'instant, tous les travaux ne sont pas complètement achevés. Mais par exemple, Orly va quand même pouvoir bénéficier bientôt de la ligne de la ligne 14 qui va être prolongée, donc ça sera un atout très important. Ça sera enfin quand même, Orly sera relié à Paris directement par le métro, et cette ligne de prendra de retard, elle sera ouverte en 2024. Donc ça, c'est quand même des atouts aussi pour le développement économique autour d'Orly. Par contre, nous souhaitons que l'activité aérienne reste dans le cadre des plafonds autorisés, qu'il n'y ait pas une surcharge d'avions sur Orly qui viendrait ajouter des nuisances évidemment pour les riverains.
Oui, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, même au-dessus de Radio-Alpha quand ils changent de couloir. Voilà. Alors, mais on a parlé d'Orly, à Orly, à Roissy, à AVP. AVP, c'est une multinationale, donc bon, c'est une entreprise d'État malgré tout, oui. Une entreprise publique. Alors, il y a un référendum qui a été lancé justement pour empêcher la privatisation. Et il faudrait 4 300 000 électeurs qui signent justement cette pétition. Où est-ce qu'on en est?
Alors, c'est à l'initiative de parlementaires. Il y a eu, je crois que c'était 240 ou 280 parlementaires qui ont demandé l'organisation de ce référendum. Donc aujourd'hui, les habitants sont appelés effectivement à signer cette demande. On a maintenant plus d'un million. Plus d'un million, donc et c'est quand même extrêmement important. Et le Val-de-Marne a été un des contributeurs importants, puisque notre département est le deuxième département de France où il y a eu le plus de signataires pour la demande de ce référendum, alors qu'on n'est que le 17e département en termes de population. Donc ce qui montre qu'il y a une sensibilisation plus forte. Et le conseil départemental y a apporté sa contribution, notamment avec un véhicule qui a sillonné toutes les villes du département pour recueillir
un petit bus.
Et donc, comme il y a eu ce million de signatures, je me suis adressé au président de la République récemment pour lui dire, comme vous l'avez fait la promesse de ramener à un million le nombre de signatures pour pouvoir organiser ce référendum, je lui dis, aujourd'hui, maintenant, ce nombre de signatures a été atteint, donc prenez la décision, mettez en œuvre par rapport à cette privatisation d'Aéroports de Paris pour qu'il y ait une consultation nationale, un vote pour ou contre la privatisation.
Mais, monsieur Favier, d'une part, pour signer la pétition, c'est pas évident, hein, parce que c'est vraiment un parcours de combattant, et deuxièmement, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas fait état de cette initiative, parce que bon, on voit pas de spot depuis nulle part.
Non,
donc on dirait que ça dérange un petit peu. D'ailleurs, je pense que il y a pas eu un député de la République en marche qui a demandé cette pétition. Au moins, c'est quelqu'un qui s'est égaré, non?
Non, il y a effectivement un
quelques-uns.
Voilà, on sent que évidemment ça doit gêner quand même du monde, parce que on a demandé, nous, qu'il y ait une campagne publique.
Tout à fait.
Ce qui aurait été normal sur les chaînes publiques qu'il y ait des débats autour de cette question-là. Et, or, il n'y a rien eu d'organisé, tout est passé sous silence pour empêcher en quelque sorte le nombre de signataires d'augmenter. Le formulaire, effectivement, y compris pour la procédure pour donner sa signature, était quand même particulièrement compliqué. Voilà, donc on sent bien qu'il y a des intérêts, on sait évidemment qu'il
y a eu des bugs.
Voilà, mais on sait aussi que la privatisation des aéroports de Paris intéresse certains grands groupes, et donc parce que derrière, il y a sans doute des profits importants qui pourraient être réalisés par certains, mais malheureusement, et en tout cas c'est ce que je pense, certainement au détriment du service rendu, et notamment le risque d'augmentation d'un certain nombre de tarifs, de parking ou autre, etc. Enfin, toute une série de choses qui sont rentables dans le cas d'un aéroport, mais nous, on considère que c'est un aéroport doit être d'abord un service rendu au public.
Ça fait rappeler l'histoire des autoroutes, mais enfin, France Télécom, La Poste bientôt, bon, on pourrait faire la liste. Justement, alors, tout à l'heure, on a parlé des difficultés financières des départements, mais parallèlement, un certain nombre de services publics départementaux qui sont en train de disparaître. Quoi exactement et pourquoi?
Alors, il y a plusieurs services publics, effectivement, qui tendance à disparaître, et en tout cas où le lien de proximité avec le public est supprimé. Notamment, par exemple, il y a de moins en moins d'accueil public dans certains services, où il faut prendre ça ne se fait maintenant que sur rendez-vous, etc. Je pense à la CAF, à la CPAM, enfin à toute une série d'institutions. Et puis il y a des services qui ferment purement et simplement, c'est le cas notamment de La Poste. Il y a une très forte résistance dans notre département par rapport à cela, parce que les habitants du département sont très attachés à leur bureau de poste. Il y a beaucoup d'usagers qui aujourd'hui souffrent du fait de la fermeture des bureaux, par exemple dans les quartiers, etc., dans les bureaux de proximité. Et donc nous mobilisons par rapport à cela pour éviter, par exemple, les réductions d'ouverture. Souvent ça commence comme cela. On réduit les horaires d'ouverture, on ferme certains après-midi et autres, et à un moment donné, évidemment, la fréquentation diminue puisque les gens ne savent plus à quel moment ils peuvent s'y rendre. Donc, on prend prétexte de ça pour dire, vous voyez, il n'y a pas la fréquentation, donc il faut fermer définitivement le bureau.
On parle d'un poste, mais on pourrait dire pareil des permanences de la CAF, de la sécurité sociale, de la recette des impôts, c'est-à-dire à tout un tas de trucs.
Bon,
alors, après, bon, il faut des transports, il faut je sais pas quoi. Et surtout, c'est tout passe par Internet. Alors, c'est très beau, l'Internet, mais ni tout le monde les compétences pour le faire, parce qu'il faut déjà avoir un ordinateur, etc. Donc, ça veut dire qu'on devient une société complètement dématérialisée.
Il y a un vrai risque de fracture, c'est-à-dire d'avoir une partie de la population qui, justement, soit n'a pas accès à Internet, soit a des difficultés particulières pour y accéder, qui, petit à petit, se trouve coupée, en quelque sorte, de toute une série de services, et donc en grande difficulté, deviennent effectivement, ou alors difficulté encore, ça croît de par cette... voilà, et donc c'est la raison pour laquelle il y a besoin de travailler aussi à faire en sorte que tout le monde puisse accéder aussi évidemment à aux services numériques, mais ça veut dire aussi y mettre des moyens. Malheureusement, c'est pas le cas. Par exemple, dans ce département où nous avons été un peu précurseurs en remettant des ordinateurs portables à tous les élèves entrant en sixième, et on continue de le faire, ça va être la neuvième année, et bien cette année, l'État a supprimé la subvention qu'elle nous accordait pour ces ordinateurs. C'est 3 millions d'euros qui nous sont supprimés cette année dans le budget 2020. Donc nous allons quand même maintenir cet investissement, mais on va le faire évidemment avec plus de difficultés.
Alors justement, que les citoyens puissent se exprimer, demain, pendant la présentation du budget, on va parler d'un budget participatif. Ça veut dire que c'est une démarche auprès des citoyens, concrètement, quels sont vos projets?
Oui, alors on a souhaité faire en sorte de mieux associer les habitants du Val-de-Marne au budget du département. Alors on ne pouvait pas le faire de manière globale sur la totalité du budget, ça aurait été très compliqué. Donc on a choisi de créer un budget participatif sur un sujet précis, qui est l'amélioration du fonctionnement de nos parcs départementaux. On en a un peu partout, on a un peu plus d'une vingtaine de parcs à travers le département. Et donc, nous avons fait une sorte d'appel à projet en direction de tous les Val-de-Marnais de plus de 11 ans. Et on a eu 450 projets qui nous ont été déposés. On a maintenant un jury donc d'une centaine de jeunes qui vont se réunir là dans les prochains jours pour examiner la totalité de ces projets.
Mais ces projets, on peut les présenter jusqu'à quand? Jusqu'à...
Alors, ils ont été présentés là maintenant.
Oui, depuis le mois d'octobre.
Donc maintenant, là, on a arrêté effectivement donc le moment de dépôt des projets. Là, on est rentré dans la phase maintenant où ces projets vont pouvoir être étudiés. Et ensuite, il y aura une consultation. Alors là, par Internet, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres moyens pour consulter.
Mais ça, je pense que les maisons de quartier peuvent...
Voilà, pourront, et ça peut être relayé aussi par les associations et autres. Donc, il y aura une consultation, et les Val-de-Marnais se prononceront sur les projets qui leur semblent les plus utiles. Et dès l'été prochain, nous mettrons en œuvre donc ces projets. Et donc, nous avons consacré un budget de 2,5 millions d'euros pour permettre donc des améliorations dans ces parcs. Donc il y a beaucoup de propositions qui nous sont venues donc pour faire en sorte que ces parcs répondent encore mieux aux besoins des Val-de-Marnais.
Alors le budget sera présenté demain lundi 10 février et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en 2020.
Non, parce que voilà, on a une préoccupation, c'est le pouvoir d'achat des familles. On sait que c'est une situation, la situation sociale est difficile pour beaucoup de gens. Et donc, on n'a pas voulu rajouter de la difficulté aux difficultés. Donc, il n'y aura pas d'augmentation. Là, il n'y en a pas eu non plus l'an dernier. Donc, ça fait donc deux années de suite sans augmentation de la fiscalité. Sachant qu'en plus, bon, c'est la dernière année. Donc, l'an prochain, on ne pourra même plus, de toute façon, voter d'augmentation.
Alors, on a parlé d'association tout à l'heure. Et justement, 2019, la Maison du Portugal, c'est une réalité à Champigny-sur-Marne. Alors, vous êtes élu aussi à Champigny-sur-Marne, il faut le rappeler.
Oui, alors
vieux projet qui datait de...
C'est un très, très, très beau projet, qui date de plusieurs années. Il y a toujours eu une demande très forte de la communauté portugaise de pouvoir avoir un lieu d'expression, d'exposition, de formation également, d'apprentissage aussi à la langue portugaise. Et donc, la ville de Champigny, ça a été le projet porté par Monsieur Anno quand... qui était maire, malheureusement, décédé.
Il nous a quittés, oui.
Il nous a quittés et prolongé. Le projet a été continué avec le maire de Champigny, aujourd'hui, M. Fautré, pour faire en sorte de mettre à disposition de la communauté portugaise, donc notamment d'une association, la PSCR, donc un bâtiment. Et l'association s'est très, très fortement mobilisée pour faire tous les travaux, des travaux considérables qui ont été faits dans cette maison. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à cette inauguration. J'étais estomaqué vraiment par la qualité des travaux réalisés, la qualité de l'accueil. Il y a de très belles expositions photos, il y a beaucoup de choses c'est une maison qui...
Mais en même temps, M. Favier, c'est une maison ouverte, c'est pas uniquement pour les Portugais.
Absolument, c'est une maison absolument ouverte à tous les, et pas qu'aux Campinois d'ailleurs, plus largement, tous ceux qui s'intéressent justement au Portugal et à cette histoire très particulière quand même, effectivement, de ce qu'est la communauté portugaise dans un département comme le Val-de-Marne, qui est une communauté qui apporte encore aujourd'hui, évidemment, beaucoup à la construction de ce département.
Ben, ils sont déjà, fondus dans la masse, entre guillemets. Mais alors, on va arrêter, mais parlons des ces municipales. Première petite question, qu'est-ce que vous pensez de la circulaire Castaner ? Qui voulait au départ que toutes les villes de moins de 9000 habitants, eh bien, bon, les couleurs politiques ont passé outre. C'est quoi? C'est un genre de lessivage? C'est quoi?
Non, c'est quelque chose d'assez incroyable parce que, on est dans un pays où les gens ont des opinions et même dans des élections et même dans des petites villes, c'est le débat démocratique. Il y a des listes de gauche, il y a des listes de droite, voilà, il y a des listes.
Non, il y a un débat d'idées, un principe.
Il y a un débat d'idées. Mmh. Il n'y a aucune raison de vouloir essayer d'uniformiser tout cela, de laisser croire que tout le monde serait sans étiquette ou non. Et c'est bien comme ça, et les gens font leur choix, et c'est un choix démocratique, mais il faut reconnaître...
Mais, voilà. Comment on peut expliquer cette volonté du gouvernement?
Je pense que le gouvernement craint ces élections, très, très, très clairement, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un très fort mécontentement dans le pays, notamment avec la réforme des retraites et d'autres sujets. Et donc, je pense que ce gouvernement avait la crainte d'une forme d'un peu de sanction à la faveur de ces élections, municipales. Donc, en masquant les étiquettes du plus grand nombre de communes, parce que ça représente l'immense majorité du nombre de communes.
Oui, c'était 80, plus de 90%. Oui, ça concernait. Maintenant, on a réduit à 3000.
Voilà, mais c'était.
C'était 54% voilà, donc,
On essayait d'effacer, ça permettait de neutraliser tout cela, d'effacer, de ne pas tirer de conclusion, en quelque sorte, politique. Par rapport à cela.
Ça n'empêche, bon, on a déjà été contacté, j'ai reçu plein déjà de, pas des professions de foi, ça il faut attendre encore quelques semaines, mais enfin, je cherche des étiquettes politiques, il n'y en a pas. J'ai posé un certain nombre de questions, oh, vous savez, c'est un truc assez large, etc., etc. Alors, M. Favier, merci, donc je rappelle que vous êtes président du conseil départemental du Val-de-Marne, vous êtes élu à Chambigny,
oui.
Alors, il paraît que vous êtes le président du comité de soutien au actuel, à l'actuel maire de Champigny, qui sera, représente liste Union de la gauche. C'est une rareté en France, des listes comme ça.
Oui, Champigny a cette particularité que il y a un rassemblement de toutes les forces de gauche, du Parti communiste, du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise et de très nombreux citoyens. Et donc cette liste que conduit Christian Fautré, que je soutiens parce que je considère que c'est une ville populaire et dans laquelle il y a beaucoup de travail qui a été conduit et qui doit être poursuivi. Il y a des très très beaux projets. C'est une ville qui a beaucoup d'avenir. Voilà, et donc je souhaite évidemment le meilleur en tout cas pour cette liste.
Alors les Sévignons ont pas pu inscrire sur les listes électorales, c'était jusqu'au 7.
Voilà,
donc c'était vendredi soir. Vendredi, mais j'ai l'habitude de dire voter c'est un droit, mais c'est avant tout un devoir, non, Monsieur Fabien?
Absolument. Je pense que ça a été déjà suffisamment difficile pour que ce droit de vote soit rendu à tous. Et on sait qu'en France, les femmes ne l'ont eu qu'à la libération. Donc, c'est pas si vieux.
45,
ça. Oui. En 45, il y avait des pays qui étaient bien plus en avance que le nôtre de ce point de vue. Et donc, effectivement, ce droit, bien, il faut l'utiliser. Il faut aller voter. Il faut pas s'abstenir. C'est l'avenir quand même de sa vie, de nos villes qui va se jouer là pour avec ces élections du mois de mars et pour 6 années ensuite. Donc il faudra pas râler hein, quand il y a des choses qui vont pas ensuite, quand si on s'abstient. Donc il faut aller voter.
Monsieur Favier, bon, vous avez parlé de liberté, la France. Une toute dernière question. Il y a certaines choses qui sont en train de se passer. Quand il y a des manifestations, récemment, il y a des enfants entre 15 et 17 ans, des lycéens qui protestaient contre la réforme du bac, etc., protestaient contre les examens qui ont été arrêtés. Ils sont restés 24 heures en garde à vue. Des enfants de 15, 16 ans. Bon, on a dépassé des bornes. Comment est-ce que vous voyez cette situation?
Oui, on a une situation qui est extrêmement tendue dans le pays. On le voit à travers ce qui se passe effectivement avec les mouvements aujourd'hui lycéens, mais aussi, je dirais, le mouvement sur les retraites, hein, et où il y a encore une majorité de Français qui sont hostiles à ce projet de retraite, et le gouvernement n'entend pas et continue, prend des attitudes de plus en plus répressives également. On le voit lorsqu'il y a des manifestations aujourd'hui, très 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 souvent, effectivement, il y a des interventions violentes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je viens de signer un appel pour qu'il y ait un référendum sur cette retraite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien, il y a un projet, le gouvernement était légitime évidemment à déposer un projet, mais il y a une protestation telle que toutes les professions,
vous savez, il y a un projet qu'on comprend rien. Voilà, dedans, même les ministres ont du mal à l'expliquer.
Un projet et où les gens ne peuvent pas effectivement savoir précisément quel sera le niveau de leur retraite. Donc c'est pas possible. Donc là, il faut, sur un sujet comme celui-là, la porte de sortie, eh bien, c'est de demander effectivement l'opinion au pays, à la population, de dire voilà, est-ce que vous êtes pour ce projet ou non, et je pense qu'il faudrait organiser effectivement un référendum sur ce projet de retraite.
Non, enfin, comme dirait l'autre, où est-il le projet? Parce que j'ai du mal qu'on étudie le projet. Est-ce qu'on peut évaluer exactement qu'est-ce qu'on va gagner, la valeur du point, etc., etc. Il y a tout un tas. Bon, c'est une comment dire, une fraction à plusieurs inconnues. Ça.
Absolument.
On revient aux maths là.
Non, puis bon, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, quand même, quand on a travaillé toute sa vie, de savoir si, est-ce qu'on aura un revenu à sa retraite suffisant pour pouvoir vivre ou pas. Ce qu'on sent bien, en tout cas, c'est quand même que la réforme actuelle, elle pousse à diminuer, en tout cas, on voit bien quand même le niveau des retraites, et pousser les gens effectivement à prendre des assurances privées pour pouvoir compléter leur retraite. Or ça, tout le monde ne pourra pas le faire, bien évidemment, et donc on creusera avec cela des inégalités. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a autant de protestations par rapport à un projet comme celui-là.
Mais enfin, c'est un des piliers du programme du Conseil national de la résistance qui risque de disparaître.
Oui, c'était une avancée extraordinaire quand même d'avoir su mettre sur pied ce régime par répartition, un régime très très solidaire où les générations sont solidaires entre elles. Mmh. Et c'est tout cela qui effectivement aujourd'hui risque de voler en éclats.
Bon, il y a déjà eu le code du travail, assurance chômage, bon voilà, bon, la suite, bon, on verra bien. Merci Monsieur Fabier.
Et merci à vous pour votre invitation, merci.
Et maintenant un petit peu de musique, après on aura une page couleur et après on parlera cinéma. Mais musique, c'est Pongo Pongo, une luso angolaise, c'est elle qui a clôturé le dernier festival au fil des voix à Paris, c'était le 7 à la salle de Trianon. Le thème Makamba, meu amigo, meu amigo.
Na edição da Grande Noite de Fado em Paris.
Não chores, velha Lisboa, por não encontrares o fado Adriano Dias, Cláudia Costa, Júlia Silva, Nina Tavares, Manuel Miranda e Joaquim Campos, acompanhados por Manuel Miranda na guitarra portuguesa, Ana Luísa na viola de fado e Tony Correia no baixo. Apresentação de Odete Fernandes. Nona Grande Noite de Fado de Paris, dia 28 de fevereiro pelas 20 horas na Sala Vasco da Gama. Informações e reservas pelo telefone 01 4510 9860 ou em radioalfa.net.
Les ventes flash Renault, c'est maintenant.
Au sujet des ventes flash Renault, je n'ai qu'une chose à dire, tenez-vous prêts. Les ventes flash, voilà, c'est flash parce que ça ne dure pas. Et c'est flash parce que ce sont des affaires immanquables. Alors venez chez Renault et bénéficiez d'offres exceptionnelles sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. C'est parti.
Offre valable du 3 au 18 février dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Voir conditions sur Renault.fr.
Vous ne pouvez pas le voir, mais aujourd'hui, Jacques a le sourire. Il a pu bénéficier d'offres privilégiées pour ses loisirs. Et ça, c'est parce que son patron a eu accès aux solutions pour les PME dans le cadre de sa complémentaire santé Malakoff Humanis.
Pour trouver des solutions adaptées à votre entreprise et à vos salariés, découvrez les solutions pour les PME de Malakoff Humanis. Malakoff Humanis, on aime vous voir sourire. Offre soumise à condition. Plus d'informations sur malakoffhumanis.com.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron, ah je suis paumé là.
T'es paumé là, c'est quoi ce méli-mélo? T'es chez Lidl?
Ah oui, et pour nous c'est pas un mélo, hein, c'est un drame. Demain et après-demain, ils nous font le pomelo à 69 centimes.
Le pomelo à 69 centimes? Bon, c'est pas gagné, hein.
Bah c'est paumé là, hein, même. Et c'est le vrai prix.
Bah, ça suffit, hein. Qui va un peu mollo sur le pomelo, ok?
Ok, on est mal, je sais.
T'as arrêté?
Ok.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Chair rouge, origine Espagne et ou Israël. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Merci Julien. Je m'appelle Anna et je veux te remercier chaleureusement. Merci d'être restée dormir sur le canapé de tes amis, plutôt que d'avoir repris le volant alors que t'avais trop bu. Sinon, t'aurais perdu le contrôle de ta voiture et percuté la mienne dans ce virage. Tu nous aurais tués, moi et le bébé que je porte depuis 7 mois. Alors merci Julien. Merci de m'avoir permis de mettre mon fils au monde, de devenir une famille.
Sur la route, on a tous le pouvoir de sauver une vie.
Sécurité routière. Vivre ensemble.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de Feu Vert. Vous avez besoin de vacances et votre voiture d'une bonne révision? En ce moment, chez Feu Vert, profitez de 25 euros de remise immédiate par tranche de 100 euros sur la révision, avec garantie constructeur préservée. 25 euros par tranche de 100 euros, c'est ça la patte de l'expert.
Des 100 euros d'achat, voire conditions sur feuvert.fr.
Radio Alpha também via internet. Alpha Fado, Alpha Pop, Alpha Mais e em direto, Alpha FM, em radioalpha.net.
Domingo, às 14h25 e quarta, às 9h30, esteja atento ao Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian, em Paris.
Hoje vamos dar uma volta à loja de móveis.
Sim, avó, mas vamos aos Móveis Elmo. Eu só quero Móveis Elmo.
Móveis Elmo, com duas lojas de exposição permanente em Bondi, telefone 01-46-07-3003, em Pierrelet, telefone 01-47-99-2198 ou ainda em meuble-elmo.fr.
Des idées de week-end et de voyage, des bons plans resto, hébergement et sorties?
Pour toutes vos envies, rendez-vous sur petitfuté.com.
En France et partout dans le monde, petitfuté.com, ce sont plus d'1 million de bonnes adresses qui s'offrent à vous.
Rejoignez dès maintenant la communauté Petit Futé pour partager vos avis et gagner vous aussi des guides et des voyages.
Petitfuté.com, les bonnes adresses du bout de la rue au bout du monde.
A notoriedade dos armazéns Merveille du Portugal já não é novidade. A qualidade dos produtos e o serviço prestado ao cliente fazem destes armazéns os número 1 dos produtos portugueses. Este mês, azeite Gaulo 2,99 a garrafa de 76 centilitros. Atum Bom Petisco a 99 cêntimos a lata. Vinho Capataz em box de 5 litros a 7,90€. Merveille du Portugal. Se não nos conhece, venha visitar-nos. Somos os supermercados que os portugueses elegeram e estamos em Shell, Herblay e Bretigny.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
On est de retour dans les studios en direct. Il nous reste 20 minutes et mes amis, on va au cinéma. Ni plus ni moins d'étoile en étoile. Un film d'Antonio Maro.
Allô? Salut, je m'appelle Pedro. Je veux faire un film.
Pardon? T'es Pedro?
Oui.
Pourquoi tu me filmes?
Je filme tout.
Moi, ce que je veux, c'est faire un film et vite.
Tu es réalisatrice, toi?
Ouais, ouais.
Tu peux m'aider?
Bah oui, carrément. Attends, juste... T'es en train de filmer, là? Ça me perturbe énormément, ce truc. Mais je sais que je suis assez fascinée par les grands acteurs à la Cassel, quoi.
Qui ça?
Vincent Cassel.
Vincent
moi, j'adore
Cassel.
Ce type, ouais, j'adore ce type d'acteur.
Vous connaissez des comédiens?
Bah, je suis quoi? Moi, je suis équilibriste.
Ah, mais vous connaissez Vincent Cassel. Tu connais Vincent Cassel?
Ouais, je prends une douche avec lui après demain, c'est lui, je parle de toi.
Tu peux lui dire de venir?
Carrément. Vous faites un film, c'est ça?
Ouais. Ouais, vous voulez passer parce qu'en fait on est encore.
Non, j'étais juste en train de regarder.
T'as enfin un casting en fait.
Cassel, Vincent Cassel. Il est là.
T'es comédien toi? T'es comédien?
Ouais, moi, j'ai passé un casting il y a 3 ans.
T'arrives à me donner mauvaise conscience.
Mauvaise conscience?
Ouais.
Je vois pas pourquoi.
Pour en faire une avec lui.
Ouais?
Non, Pedro, sérieusement, on va pas.
Non, mais c'est pas sérieux.
C'est quoi?
Laisse ma chance.
Vas-y, mec. C'est bien, Patrice. Allez, il a le rôle. Tiens, moi je me casse.
Je suis censée être la réalisatrice. Alors pourquoi depuis le début sur ce projet j'ai un sentiment d'usurpation?
Voilà un petit extrait pour savoir davantage. Le 19 février au Saint-André des Arts, rue des Saint-André des Arts, un des rares cinémas qu'on appelait dans le temps Art SM, mais enfin c'est une autre histoire. Antonin Valar, bonjour Rotal.
Bonjour Botal, merci beaucoup de nous recevoir.
Bonjour également à Philippe Denis, c'est Botal.
Comment ça va-t-il?
Bon, voilà, ça commence bien, mais ça. Alors, ces films, d'étoile, un étoile, au début, il y avait un projet, reste un peu, parle-moi. Mais j'ai l'impression qu'on a le titre, finalement, le premier n'était pas plus...
Non, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand on commence à rédiger un film, un scénario de film, bien souvent, on connaît pas encore le titre. Mais il faut un titre au départ, histoire d'en avoir un, parce que quand on parle avec l'équipe, il faut qu'on donne un nom à cette chose. Mais en général, le titre, il vient au moment de la carrière du film, au moment de la diffusion, quoi.
Est-ce qu'étoile, ça a quelque chose à voir de vivre dans la rue? Il y a un petit clin d'œil à ça ou pas?
Il y a forcément un clin d'œil ironique à ça, forcément, parce qu'il y a un décalage entre c'est l'histoire d'un personnage qui vit dans la rue. Et donc, forcément, il y a un décalage ironique. En plus, ce personnage, il est convaincu qu'il vient du cosmos.
Ouais, voilà,
donc, il y a ça. Et puis après, c'est un personnage qui veut faire un film. Donc, les étoiles, c'est les comédiens, en fait.
Ouais. Vincent Cassel. Vincent.
Et il cherche Vincent Cassel partout, voilà, effectivement. Ouais.
Alors, on peut dire que ça jongle entre la comédie sociale et le fantastique, parce qu'il y a tout ça, parce que Pedro, Philippe, apparemment, bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus que dans les étoiles, parce que bon, apparemment, il tourne pas très rond non plus, c'est pas évident. Parce que bon, le film, quel, j'ai l'impression que cette histoire des gens qui vivent dehors, on appelle ça sans domicile fixe, alors qu'en réalité, ce sont des sans domicile tout court. Ça, c'est une question que ça vous touche, à vous, Anthony Malan, non?
Alors oui, bien sûr, ça me touche. Bon, après, c'est très simple, hein, le fait de passer dans la rue et de voir des gens dehors, ça fait toujours quelque chose, ça interpelle. Moi, quand je vois effectivement dans le métro, dans la rue, en extérieur, comme ça, déjà, forcément, je me pose la question du parcours. Qu'est-ce qui a amené ces gens à arriver là? Et c'est vrai que à l'occasion du film, de la sortie du film, on a rencontré donc des écrivains qui sont anciens sans-abri et qui racontent leur histoire. Et à chaque fois, on se rend compte qu'il y a quelque chose à voir avec l'enfance. Et dans ce personnage de Pedro, bah, dès le départ, il y a ce truc de l'enfance. Il est arrivé dans le corps d'un enfant. Et c'est là que tout se forge. Dans toute petite enfance, il y a une cassure, il y a une faille qui se met en place et qui fait que tôt ou tard, il y a une fragilité et la personne arrive à connaître un parcours dans la rue, quoi.
Je crois que dans une interview, vous avez dit, ce film permet d'aborder les questions de la privation de parole, de l'anonymat et de l'isolement.
Oui, c'est un peu tout ça, parce que après, forcément, moi, je me sers de ce personnage de Pedro pour parler de plein d'autres choses, c'est-à-dire que de la question de la difficulté de s'exprimer, de trouver sa place, de faire un film, tout simplement. Moi, à l'époque, on a démarré ce film-là. Bah, je sortais d'une longue période d'écriture et il y avait une difficulté à faire un film, parce que faire un film aujourd'hui, ça peut prendre. On finit un scénario et puis 3 ans après, le film se fait. Donc, il y avait une question d'urgence. Et donc je me suis vraiment complètement lancé dans cette idée qui m'obsédait d'un gars qui veut à tout prix faire un film. Hein, donc entre guillemets, c'est aussi un côté un peu personnel. Mmh. Et après, tout ce qu'il fallait, c'est arriver à trouver le comédien qui puisse endosser ce personnage, quoi.
Et il faut dire que le film a été pratiquement auto-financé, entre guillemets, parce que tout un réseau. Auparavant, vous avez fait un certain nombre de films d'animation, oui. Ce que je peux appeler des documentaires, entre autres, sur les OGM. Hein, on y revient, oui. Avec ce traité, avec le Canada, etc., etc. Qu'est-ce qu'on va manger comme viande aux hormones?
Ah, mais c'est un sujet qui est absolument tout le temps d'actualité, mmh. Qui va le rester encore longtemps, quoi. Effectivement, c'était pas un documentaire, c'est une fiction.
Fiction.
Mais une fois de plus, c'est vrai que moi, j'aime bien jongler un peu entre le documentaire et la fiction. Donc, c'était une histoire, c'était une fiction, mais qui, dans la forme, pouvait faire penser à du documentaire. Mmh. Et c'est la même chose qui se passe avec Détendre l'étoile. Moi, on a fait une avant-première à Paris en septembre. Et en sortant de l'avant-première, beaucoup de personnes m'ont dit, mais c'est quoi? C'est un documentaire ou c'est vrai? Donc ça m'amuse beaucoup de jouer avec les deux.
Alors, Pedro, qu'est-ce que c'est cette histoire de pouvoir faire un film? Qu'est-ce qui est passé par la tête de Pedro?
Ah, Pedro, c'est quelqu'un qui, comme tout SDF, en fait, au départ, quand on est SDF, on fait surtout plus partie de la société, c'est-à-dire qu'on n'existe plus. Je pense que le cinéma, pour lui, c'était aussi une façon d'exister, d'une part, et ensuite, Pedro, d'un point de vue plus technique et psychologique, est quelqu'un qui ne ressent pas les émotions dans la vie réelle, et qui a besoin du prisme de la caméra pour, à un moment donné, comprendre les émotions humaines. Donc lui se lance dans cette entreprise de pouvoir comprendre le genre humain à travers son film, avec un petit côté obsessionnel, hein, je vous le cache pas. Et donc je trouvais ça très amusant. Ce qui est assez drôle, comme quoi dans la vie il y a pas de hasard, il y a que des belles rencontres. Hein. Je crois que c'est Paul Éluard qui disait ça. Et c'est ce film, ce scénario est arrivé à un moment de ma vie où je crois que moi aussi j'avais besoin de quelque chose pour exister. Pour donner un sens à ma vie et c'est un bien grand mot mais finalement le film est tombé à point nommé et le rôle aussi d'ailleurs.
Ben, le rôle bon c'est un rôle un petit peu ingrat parce que Pedro on le voit jamais, on l'entend.
Alors c'est ça qui était intéressant justement parce que n'étant pas vraiment dans le moment le plus confiant de ma vie, cet entre-deux. C'est-à-dire que je suis très présent dans le film puisque je suis pratiquement présent sur toutes les scènes. J'ai eu d'ailleurs le plaisir de pouvoir donner la réplique à peu près à tous les comédiens du film. Mmh. Alors, soit dit en passant, les comédiens étaient absolument fantastiques. Antonio a fait un gros travail de casting en préalable. Et donc, moi, je me suis retrouvé effectivement dans cet entre-deux. On me voit pas vraiment, mais on m'entend beaucoup. Et je pense que pour l'affirmation de soi, c'était ce qu'il me fallait. C'était une première étape. Je pense que me voir à la caméra directement, pleinement, aurait été un peu plus délicat. Moi, je croyais que c'était un court-métrage au départ, hein, parce que voilà, je me sentais pas vraiment d'aller de prendre cette aventure à bras-le-corps comme je l'ai fait. Et puis finalement, ça a été fantastique. Ça a été fantastique.
Alors, c'est peut-être pas par hasard que Pedro on le voit jamais. Les SDF, on les voit pas. On passe à côté, on les voit pas. On les entend. C'est un petit clin d'œil, Antonio.
Bien sûr. Après, le film, de toute façon, il a une dimension sociale, il a une dimension politique. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a eu une chance assez incroyable avec un film, comme vous l'avez dit, qui est en fait autofinancé, où les gens sont venus sur ce projet en acceptant de ne pas être payés, etc. Et on a été sélectionné sur un gros festival qui est le Festival international du cinéma d'auteur de Rabat au mois de novembre. Donc ils ont fait un gros pari de prendre ce film-là parce que c'est vrai que c'est un film qui a une dimension subversive qui est très présente. Et du coup, nous, ce qui nous a beaucoup amusé, c'est qu'on a deux catégories de gens qui réagissent au film. Il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent. C'est-à-dire qu'on a rarement le milieu. Il y a ceux qui rentrent complètement dans le discours du film et qui sont complètement dedans et ceux qui nous aiment pas parce que les idées qu'on véhicule à l'intérieur ne plaisent pas forcément, quoi.
Mais revenons un petit peu à Pedro. Mm. Alors, lui, bon, apparemment, son scénario, il se le construit petit à petit. Comment ça se passe? Parce qu'heureusement qu'il a trouvé Aya. Mm. Alors ça, c'est très important. C'est une nana qui débarque. Bon, elle, c'est une néophyte aussi là-dedans. Pour elle, ça n'a pas été facile. Hein.
Non, c'est la chance qu'il a d'ailleurs, c'est de tomber sur une néophyte qui a absolument besoin de travailler et d'avancer parce que je pense que dans d'autres conditions, si elle avait d'autres projets, elle aurait sans doute refusé celui-ci. parce que Pedro arrive quand même avec une proposition un peu brinque-ballante au départ. Hein. Il est un peu escroc sur ce coup-là, Pedro. Et donc, il va proposer effectivement des scénarios, mais qui en fait sont des phrases et des scènes qui sont pompées dans des films, dans des classiques, hein, tels qu'Agnès Varda, etc. Et donc Pedro va pomper là-dedans jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se voit. Ça finit par se voir. Et donc là, il va se retrouver un petit peu piégé. Mais il écrit au fur et à mesure, parce que finalement, le but de Pedro, est-ce que c'est réellement réaliser un film ou est-ce que c'est tout simplement exister d'une part et puis aussi comprendre. Lui, ce qu'il veut, c'est comprendre. Alors finalement, cette fameuse phrase de « le but importe peu, le chemin, c'est ce qui compte », pour Pedro, c'est complètement l'idée en fait. C'est exactement ça. Lui, au bout du compte, faire un film, est-ce que c'est réellement nécessaire? Je crois qu'il a la matière qu'il cherchait.
Alors justement, cette réalisatrice, interprétée par Ariane Louis, finalement, bon, il y a la voix de Philippe, il y a la présence de Ariane, c'est incroyable parce que c'est...
Alors elle, c'est la...
C'est un petit peu le pivot,
c'est
non?
C'est la protagoniste, hein, ouais. Parce que c'est elle qui va évoluer au fil du film, c'est elle qui, à un moment donné, va choper un peu le virus de Pedro. Alors, en deux mots, hein, Ariane Louis, c'est comme... un peu grâce à elle aussi que le projet a démarré, parce que moi au départ je cherchais les deux comédiens principaux, je faisais le casting, je savais pas si j'allais faire le film. Quand j'ai casté Ariane, je me suis dit, là c'est bon, j'ai la comédienne, il me manque plus que le comédien. Et donc là j'ai commencé à caster des comédiens, je trouvais personne qui voulait accepter ce rôle comme ça un petit peu bizarre, parce que les gens des fois me disaient mais je comprends pas, même pas ce que c'est ton projet. Donc on est amis avec Philippe de longue date et j'avais un petit peu de mal à le joindre depuis quelques temps, mais finalement ça s'est fait. Et puis comme je savais que il y a une expression en portugais qui est eu não quero puxar as vozes minhas sardinhas, pour traduire en français c'est ne pas tirer la couverture à soi. Merci. Et je savais que il y avait de ça chez Philippe. Voilà, et donc du coup il a mordu à l'hameçon et c'est parti quoi.
Alors j'ai eu un certain nombre de critiques. Il y a des gens qui disent bon, avec Anthony Rambalan et avec ce film, c'est un petit peu comme vous avez dit tout à l'heure, on aime ou on déteste, parce que on sort à la fin. Bon, il y a des gens qui ont écrit ça, on sait plus où on est. On dit mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a un fin? Est-ce que c'est vrai, véritablement un film? Il y a eu des critiques comme ça. Les gens ils sont complètement désarçonnés. C'est bon signe, ça aussi, non, des fois.
Bah, moi, en tout cas, c'est peut-être paradoxal, mais quand les gens réagissent comme ça, quand ils se sentent un petit peu déstabilisés, moi, ça me peut faire que plaisir, parce que ça fait partie du jeu. C'est vrai que c'est un film qui est extrêmement minimaliste et simple sur la forme, parce qu'il y a beaucoup de plans séquences. Mais
oui,
il est extrêmement
filmé avec une petite caméra en plus.
Exactement, parce qu'on l'a tout fait dans la rue, et donc il fallait être assez discret parce qu'on a filmé dans des endroits qui étaient parfois un petit peu sensibles.
18e, 19e, 20e.
Voilà, donc parfois on était un petit peu embêté par
chaud,
quelques personnes dans la rue. Donc il fallait être quand même assez discret et
on a eu beaucoup de candidatures spontanées quand on tournait dans le 19e. Beaucoup de gens qui passaient dans la rue et qui voulaient absolument tourner dans le film, mais non, c'était pas possible. Puis après souvent ils étaient dans un état d'ébriété assez avancé, donc le film a été une aventure à tourner. On a tourné, ça a été exclusivement en extérieur, pratiquement lumière naturelle. Il faisait très froid, mais il y a une super connexion aussi entre les gens, entre l'équipe, et je crois que ça se ressent dans le film au final. Il y a une belle équipe qui s'est formée et c'est tous un petit peu soudés dans l'adversité. Non, ça a été un moment très agréable à passer.
Alors à propos de critique, à quelqu'un qui a écrit, ce film propose un récit qui joue à la fois de démystifier le cinéma et à lui rendre hommage. J'ai pas le nom de la personne qui a écrit cette phrase.
Ah ben c'est complètement ça. Donc après, je sais pas si c'est une critique positive ou négative.
Ah non, là c'est 100% positif.
Mais on est exactement là-dedans, démystifier et rendre hommage. On est à la fois dans la citation et à la fois dans une espèce de jeu où lui, il pense qu'il peut faire du Godard, Pedro. Il pense qu'il peut avoir Vincent Cassel demain. Et donc là, évidemment, c'est ironique parce que ce pauvre gars, en réalité, sa vie, elle est en train de très très mal tourné, il est en train de s'écrouler littéralement. Donc il y a une dimension ironique et à la fois quelque chose d'un petit peu humain, quoi. Il y a une sensibilité, quoi.
C'est pas. Après, je peux prolonger un petit peu ce que vous venez de dire. Bon, on est pas mal dans cette situation avec la vie telle qu'elle est aujourd'hui, avec cette planète qui part où je ne sais où, avec de la fracture sociale, avec le chômage, etc., etc. Bon, on peut comprendre, Pedro, qu'elle a envie de s'évader un peu tout ça, non?
Je crois que c'est son échappatoire, de toute façon, le cinéma, effectivement. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cet aspect cinéphile. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui connaît À bout de souffle, qui connaît Varda, qui connaît Godard, etc. Et on a toujours une opinion, en fait, l'inconscient collectif a une vision du SDF qui est quand même hyper négative. On a forcément l'impression que ces gens-là, s'ils en sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de connaissances. Et on se retrouve face à quelqu'un, si, qui est un passionné, qui a une connaissance quand même assez précise et minutieuse du cinéma. Et je trouve que c'est intéressant de porter ce regard sur ce type de personne, voilà, sur ce type de profil. Ça réhabilite un petit peu aussi les sans domicile fixe, qui sont parfois des gens qui ont eu des parcours de vie fantastiques avec des niveaux d'études incroyables, mais il y a cette faille psychologique qui fait qu'il y a une fragilité. Ils se retrouvent dans cette situation-là. Je trouvais ça intéressant. Je pense que on est nombreux dans notre vie à un moment donné à avoir peut-être frôlé cette situation-là, sans pour autant y tomber. Et je crois qu'une fois qu'on y est, c'est pas facile d'en sortir. Donc il y a une mise en abîme qui est hyper intéressante dans ce film. Le cinéma dans le cinéma,
Oui, parce qu'il faut pas oublier le chômage, une séparation, etc. On est vite fait tomber. Alors vous avez filmé dans un certain nombre d'endroits où il y a des bidonvilles. Bon, les Portugais, il faut qu'ils se rappellent de temps en temps par où ils sont passés, malheureusement aussi. Et des fois, bon, on a tendance à dire non, c'est pas nous. Si, c'est nous, on est passé par là aussi. Donc, du respect pour ceux qu'aujourd'hui sont dans le besoin. Alors, parlons un petit peu des origines d'Antonio Melo. Vous êtes déjà né en France, je crois.
Antonio Melo, donc moi, je suis né en France, effectivement. Je suis né à Ponto Combo. Voilà, mes parents sont originaires de Beira Alta, donc Penalva do Castelo, à côté de Mangualde, et puis ils se sont installés à un moment donné à côté de Coimbra, donc moi j'ai passé beaucoup de temps.
Ils sont venus pour les mêmes raisons que beaucoup de monde,
exactement.
Le fascisme, etc.
Tout à fait, je fais partie de cette seconde génération dont les parents sont venus parce que...
Et vous en parlez de ça, de ce qu'ils ont vécu au Portugal?
Ah, bien sûr. On a parlé de ça, on a parlé du bidonville de Champigny qui a été une grande plaque tournante ici dans le coin. Et puis bon, comme beaucoup de ma génération, on a beaucoup été au Portugal, passé de très nombreuses vacances. Moi, j'ai eu la chance, de traverser le Portugal, d'aller un peu partout aussi avec eux, notamment.
Donc on mange bien, on boit bien, avec modération.
On mange bien, on boit bien, et puis après, c'est aussi, il y a une passion aussi pour cette culture portugaise qui n'est pas que boire et manger. Il y a plein de figures culturelles extrêmement fortes. Alors c'est vrai que c'est surtout un pays pour moi, de mon point de vue, de littérature. Hein, Fernando Pessoa, Saramago, António Lobantunch, voilà, c'est des noms qui sont absolument Megaltorg, etc., qui sont gigantesques dans la littérature mondiale. Et donc voilà, quand nous on a toujours cette nostalgie, cette saudade, et quand on va là-bas, on va chercher quelque chose. Et Pedro, il s'appelle pas Pedro pour rien, il s'appelle Pedro Caveira. Donc notre personnage, il est aussi de seconde génération portugaise.
António Amaral et Philippe Denisio, merci d'être venu. Je rappelle, 14h, je crois.
Il sera joué tous les jours à 13h à partir du 19 février au Saint-André des Arts à Paris, dans le 6e, métro Saint-Michel.
Donc la plupart du temps, vous allez y être. Alors, il y a cet nombre d'autres personnes qui vont, à la fin de la projection, faire un petit débat. Entre autres, Jean-Manuel Simões, qu'on a reçu, un photographe.
Absolument, un très très grand photographe franco-portugais.
Sensible à un certain nombre de choses aussi.
Exactement, qui a beaucoup travaillé aussi sur la rue et qui fait un travail assez phénoménal au niveau de la photographie aujourd'hui.
Bon, et sinon, pour davantage de détails, on a que...
Imagefantôme.com. Ouais. Et puis on a une page Facebook du film aussi, donc imagefantôme.com. Voilà, vous avez toutes les infos dessus. Allociné, ça sera sur Allociné. Ah, ça y est déjà d'ailleurs.
C'est pas un fantôme, hein,
c'est pas un fantôme, c'est le nom du site.
Voilà. Sinon, vous allez aussi sur le site de Saint-André des Arts, Saint-André des Arts. C'est une salle excellente pour tous ceux qui aiment du cinéma, mes amis. Passez de temps en temps, vous savez, des choses merveilleuse que vous voyez nulle part, je
Ils
crois.
Ils font un gros travail d'aide au cinéma indépendant, c'est assez énorme ce qu'ils font, oui.
Merci à vous et on va vous accompagner. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille le 19 à 14 heures, c'est ça?
13 heures, pas 14 heures.
13 heures.
Le débat, d'accord. C'est après. On reste d'accord. Ensemble après, on se voit, toute l'équipe sera là, toutes les projections et on discutera à la fin du film.
Et le métro le plus proche, Saint-Michel.
Saint-Michel.
Il n'y a pas à se tromper. Métro, RER, j'en passe le meilleur, bus, bon, il y a le 27.
Il y a tout ce qu'il faut.
Ouais. Bon. Merci à vous et
merci beaucoup,
on arrive à 19h, après on va parler de théâtre. Merci.
Tout bon, les gars.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Radio Alpha, 13 horas.
Bonjour à tous. Cette alerte enlèvement à Angers, la fillette d'un an enlevée par sa maman vendredi soir est toujours introuvable. En revanche, le procureur d'Angers indique ce midi que la mère de Vanille a été retrouvée dans un hôtel de Nantes. Elle est fragile psychologiquement. La petite fille, elle, est métisse. Elle a les yeux noirs, les cheveux couleur brun foncé, court et frisé. Vanille vivait depuis un an en famille d'accueil. Si vous pensez voir l'enfant ou avoir la moindre information, n'intervenez pas. Appelez le 197 ou envoyez un mail à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr. 35 départements de la moitié nord de la France placés en vigilance orange et 6 pour vague submersion. La tempête Ciara balaye aujourd'hui le nord du pays. De fortes rafales de vent sont attendues, surtout en fin de journée, de 100 à 120 km/h à l'intérieur des terres, 110 à 140 des côtes bretonnes jusqu'à la côte d'Opale. Il est recommandé d'éviter les zones boisées, de ne pas se garer sous un arbre et de ranger les pots de fleurs et les mobiliers de jardin. Les plages ont d'ores et déjà été fermées au public. Également dans l'actualité, le coronavirus, un nouvel avion en provenance de Wuhan a atterri cet après-midi en Angleterre. Il est affrété par le Royaume-Uni. Parmi les passagers, 200 Britanniques et 38 Français. Ces derniers seront placés pendant 14 jours en quarantaine dans l'école supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence. Ils rejoindront les 78 personnes arrivées le 2 février. Au total en France, 11 personnes sont touchées par l'épidémie, dont 5 ressortissants britanniques en Haute-Savoie. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, doit se rendre à Contamine. Dans le monde, le coronavirus a fait 811 morts, dépassant celui du SRAS. 2 militaires américains tués et 6 autres blessés par un soldat afghan hier. On ne sait pas pour le moment s'il s'agit d'un accident ou d'un acte délibéré de la part du soldat afghan, a indiqué le porte-parole des forces américaines. Et puis le rugby, le tournoi Destination, deuxième sortie des Bleus cet après-midi face à l'Italie. Ils ont rendez-vous à 16h au Stade de France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle journée à tous.
Nona edição da Grande Noite de Fado em Paris.
Amar-te não pode somente ser um gesto vago.
Cláudia Costa, Júlia Silva, Nina Tavares, Manuel Miranda, Adriano Dias e Joaquim Campos, acompanhados por Manuel Miranda na guitarra portuguesa, Ana Luísa na viola de fado e Tony Correia no baixo. Apresentação de Odete Fernandes. Nona Grande Noite de Fado de Paris, dia 28 de fevereiro, pelas 20 horas, na Sala Vasco da Gama. Informações e reservas pelo telefone 01-4510-9860 ou em radioalfa.net.
Bon chéri, on vérifie une dernière fois avant de partir.
Ok.
Alors, les valises.
Dans le coffre.
Les vélos.
Sur le toit.
Les enfants.
Les enfants derrière.
Le GPS.
Sur le pare-brise.
Ok. Et la banque.
Ah ben la banque en ligne.
CIC Iberbanco, la banque qui vous offre tous les services d'un grand groupe sans renier vos racines, est aussi une banque en ligne. À retrouver en agence ou sur cic-iberbanco.com. C'est ça, une banque ouverte sur deux mondes.
CIC, construisons dans un monde qui bouge. Oh, querido, espero que este ano não me tenha esquecido do dia dos namorados.
Minha fofinha, como é que eu me posso esquecer?
Claro que te podes esquecer. Olha o ano passado, não fizemos nada.
Não só já está reservado, como sei que vais adorar. Vamos passar uma noite XPTO com um jantar de fado sem viajarmos para Portugal.
Já sei, é a noite de fado especial São Valentim da Canelas. Homem, acertaste em cheio. Não perca a noite de São Valentim na sala Dona Antónia, no número 23, Rue Canelina, em Pierrefitte. Faça já a sua reserva pelo telefone 0148-218451.
Sintonize Rádio Alfa em DAB. Na sua região. Lille, Lyon, Estrasburgo e Paris. Rádio Alfa em digital. Todas as informações em radioalfa.net.
Choisissez Cdiscount Voyage pour toutes vos envies. En plus, vous pouvez payer en 4 fois. Oui, oui, le paiement en 4 fois sur tous vos vols, séjours, camping ou hôtel. Et en ce moment, avec Cdiscount Voyage, partez découvrir le monde merveilleux d'Harry Potter. Le séjour vol, 2 nuits d'hôtel dans le centre de Londres, plus l'entrée au studio Harry Potter à partir de 229€ seulement. Cdiscount Voyage, pour toutes vos envies. Offre limitée valable du 3 au 17 février, voire conditions sur le site.
Les ventes flash Renault, c'est maintenant.
Au sujet des ventes flash Renault, je n'ai qu'une chose à dire, tenez-vous prêts. Les ventes flash, voilà, c'est flash parce que ça ne dure pas. Et c'est flash parce que ce sont des affaires immanquables. Alors venez chez Renault et bénéficiez d'offres exceptionnelles sur une sélection de véhicules disponibles immédiatement. C'est parti.
Offre valable du 3 au 18 février dans la limite des stocks disponibles. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Voir conditions sur Renault.fr.
Baron de l'Estac.
Une entrecôte fort bien grillée cherchait un vin rouge avec qui s'allier. Baron de l'Estac se présente soudain.
Ma chère, ne cherchez pas plus loin, nous sommes faits pour nous entendre. Vous êtes tendre et moi je suis boisé, fruité, Bordeaux de tradition, baron de qualité.
Moins bavarde que lui, elle répondit, oui.
Conclusion, pour accompagner viande et fromage encore, Baron de l'Estac rouge est toujours en accord. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Tout savoir sur la fin des tarifs réglementés de vente du gaz avec Total Direct Energy. 2019 a vu la fin de la commercialisation des TRV, les tarifs réglementés de vente du gaz. Marie a déjà choisi l'offre Total Direct Energy, elle nous raconte dans un instant.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
On vient au direct et on va au théâtre. Théâtre du Gouvernail, Paris 19e, Flore Belle, la sœur du rêve. Et on va rêver. Du rêve, une belle mise en scène. Et justement, pour me parler de ça, Guy Calice, bonjour. Guy Calice, c'est le metteur en scène justement de cette nouvelle version. Et je pense qu'on voit Guy Calice. Bon, il y a eu chamada que eu, coisas que acontecem. Vamos continuar a ouvir um bocadinho de música e tentaremos falar com ele. E igualmente com Daniela Costa, que é a atriz principal. A atriz principal desta peça. Peça esta que é a autora é Odete Branco e os atores Daniela Costa, Axel Joubert, Joana Calaf e Nicolas Vaucher. E Guy Calice é déjà avec nous, je crois. Guy Calice? Bom, on a vraiment un petit Guy Calice.
Oui, vous m'entendez?
Oui, parfaitement. Merci, Guy Calice, d'être parmi nous. Alors, une nouvelle mise en scène de cette pièce. Alors, c'est une pièce que j'ai eu la chance d'avoir eu la première. C'était le 3 février. Alors, une première question. Alors, Flore Belle Spink, comment est-ce que vous avez découvert cette poétesse portugaise?
Alors, en fait, J'ai rencontré l'auteur de la pièce, Odette Branco, via une petite annonce sur un site dédié au théâtre et qui s'appelle théâtrecontemporain.net, puisque Odette cherchait un metteur en scène. Et donc, on s'est rencontrés une première fois dans un café où elle m'a fait découvrir le texte. Et très vite, je lui ai dit que j'étais d'accord pour faire la mise en scène de cette superbe pièce.
Alors, cette pièce, bon, c'est, on peut dire que c'est le dernier jour de la vie de Florbert Le Spenck. Bon, c'est une pièce en même temps dramatique. Alors, vous avez rajouté quelque chose, parce qu'avec cette mise en scène, on a de la musique et on a de la danse. C'est un autre regard sur la poésie, sur les écrits de Florbert Le Spenck.
Oui, on a de la musique, on a de la danse, mais on a aussi du chant. C'est-à-dire qu'il y a deux comédiennes qui chantent a cappella sur scène. Et en fait, l'idée m'est venue lors des castings quand je cherchais des comédiens et comédiennes. À chaque fois, je leur demandais, lors de chaque audition, si ils avaient d'autres talents que jouer la comédie, et notamment s'ils savaient danser ou chanter. Et à chaque fois, ils me demandaient « oui, mais pourquoi ?» Je leur disais « je ne sais pas exactement, mais j'aimerais me servir de vos autres talents, et notamment le chant et la danse. » Et j'ai eu la chance de trouver donc des comédiens et comédiennes qui sachent chanter et danser, et notamment un des comédiens qui est également chorégraphe professionnel et qui nous a beaucoup aidé pour la mise en place des danses.
Alors, au niveau du chant, on a un fado, Daniel Lecoste, bonjour.
Bonjour, oui, Arthur.
Alors, Daniel, donc le chant, mais l'interprétation, parce que tout passe par toi finalement, parce que t'es Florbert, avec tout ce que cela suppose. C'est un rôle que tu le connaissais déjà, mais là, il y a une nouvelle façon de l'exprimer, les écrits de Florbert Le Spenck, non?
Oui, en fait, c'est cette fois-ci, nous respectons tout le texte. Et non seulement je joue Flor Bella comme je fais Flor Bella et sa pensée, donc ça a exigé un peu plus de moi, on va dire.
Alors, il y a tout un jeu de scène, et Guy, bon, je pense que bon, c'est lui le responsable dans le bon sens du terme, parce que bon, il y a sur la scène, il y a un décor minimaliste, mais tout se passe, il y a un jeu entre les lumières, la musique, le geste. Il y a des fois, c'est-à-dire, on a du mal à regarder les gens, vous, les acteurs, quand vous êtes en train de réciter et de parler, et de ne pas regarder tout ce qui se passe autour. Ça a été fait exprès, Guy, ce mélange-là?
Oui, en fait, un des enjeux de la pièce de Florbella, c'est que le personnage de Florbella est double. C'est-à-dire qu'on voit Florbella agir dans la vie avec les images de son passé, avec son amant, son frère... la jeune fille qu'elle était dans le passé, d'accord. Mais il y a aussi la pensée de Florbella, c'est-à-dire qu'il y a des passages où on n'entend que la pensée de Florbella. Et donc l'enjeu était d'arriver à retranscrire sur scène la pensée d'une personne. Et donc il fallait à tout prix trouver un mode d'expression spécifique pour la pensée. Et je pense qu'on y est arrivé avec une musique spécifique, avec des lumières spécifiques, et également l'interprétation de Daniela qui change dès lors que l'interprète l'a pensé.
Alors justement, Daniel, c'est un fado, donc la musique de fado, parce que bon, Florbert Le Spenck a été chanté par plein de monde au Portugal, mine de rien.
J'ai pas très bien écouté la question,
Oui, que bon, tu chantais un fado, et que je disais que les textes de Florbert Le Spenck ont été chantés par beaucoup de gens au Portugal.
Oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs comme ça que Odette Branco, qui a écrit la pièce, m'a découvert à Paris. Elle m'a entendu chanter un poème de Florbella Le Spenck. Et puis, de là, elle m'a fait l'invitation de devenir Flor Bella dans sa pièce de théâtre.
Alors, cette fois-ci, Guy, il y a Johanna Calaf qui chante aussi. Ça, c'est un truc extraordinaire. Et elle chante en libanais, c'est ça?
Oui, exactement. Oui, elle chante en arabe du Liban.
Ouais. Ouais, mais on dirait un genre de... Comment dire? Une complainte. Je ne sais pas comment dire le chant qu'elle chante dans la pièce. C'est une complainte, c'est quoi?
Alors, je ne suis pas du tout spécialiste.
Moi, je pourrais peut-être vous clarifier en plus.
Oui, vas-y.
En fait, c'est un chant de quelqu'un qui... C'est un chant nostalgique aussi. Quelqu'un qui pleure le départ de son être aimé.
Donc ça rentre pleinement dans la pièce.
Oui. Exactement.
Oui, et il n'y a aucun anachronisme avec ce que peut chanter Daniela, qui est là dans la pure tradition du fado.
Alors, Guy, une dernière référence pour les musiques. Alors, les musiques, ça vaut peut-être la peine de donner une petite explication à nos auditeurs. Ses origines, ça vient de Suède, c'est ça?
Oui, donc là, on part pour le nord de l'Europe, puisque c'est un groupe suédois qui s'appelle Flaskvartetten, et avec des musiques extrêmement originales et qui, je trouve, collent tout à fait à l'esprit de la pièce.
Guy, merci également Daniel Lecoste. Alors, deuxième représentation, ça sera demain. Demain, le 10, c'est à partir de 21h, c'est ça?
21h au Théâtre du Gouvernail, 5 passages de Thionville.
Voilà, alors les métros, Lumière, Ourcq, au Crimée, vous avez aussi un bus, c'est la ligne 60, et l'arrêt, c'est Lumière, mais on peut aussi réserver à travers de billets réduc, etc., etc.
Oui, billets réduc,
WeClap.
Et vous pouvez aussi venir par la ligne 7 si vous descendez à la station Riquet. Donc il y a beaucoup de moyens de venir voir la pièce.
Ah oui, j'avais oublié, c'est justement cette ligne-là que j'avais pris. Alors, une représentation demain, après ce sera le 24 février, au mois de mars, 4 dates, 4, 11, 24, 31 mars, et après d'autres au mois d'avril, 9, 10, 11 avril, mais enfin, on va vous accompagner. Merci, bon vent pour cette nouvelle mise en scène de Flor Bella, la sœur du rêve. Merci Daniel, merci Guy, et à très bientôt, voilà.
Merci à vous, à bientôt.
Plaisir de vous voir, au revoir.
Merci. Et, pois é. A peça já tinha sido apresentada aqui em Paris há uns largos meses atrás e é sempre importante que um certo número de autores portugueses sejam aqui dados a conhecer quando se fala de Flores Bela Espanca, pois bem, aqui em França é completamente desconhecida e mesmo em Portugal, que em Portugal muita gente desconhece esse grande nome da poesia portuguesa. E já que estamos a falar, bom, falamos de fado há bocado, sem esquecer a nona noite de fado de Paris, organizado pela Rádio Alfa, no dia 28 de fevereiro às 20 horas, na Sala Vasco da Gama, como já havia aqui em Valenton, com a Manuel Miranda, Nina Tavares, Joaquim Campos, Cláudia Costa, Adriano Dias e ainda Júlia Silva, os músicos, Manuel Miranda, Ana Luísa, Tony Carreira, apresentação, como já é hábito, de Odete Fernandes, que está aqui todas as sextas-feiras com o programa Só Fado. E de maneira que podem reservar, evidentemente, 014510, 98 60 01 45 10 98 60. On va quitter le fado bien que la personne qu'on a déjà en ligne, Pascal Cherki, bonjour.
Bonjour Arthur.
Alors Pascal Cherki adore aussi le fado, mais cette fois-ci c'est pas de fado qu'on va parler, bien que les avocats sont aussi dans la danse. Je veux parler de la réforme des retraites. Alors justement, les avocats, ça fait un mois que vous défendez votre système de retraite, mais plus largement, Pascal Cherki, ça va plus loin que votre propre régime, parce que ça concerne tout le monde, n'est-ce pas?
Ça concerne tout le monde. Si vous voulez, Arthur, je vous explique en deux mots pourquoi nous, les avocats, on est en grève, en mobilisation, et après on parle de la réforme en général. Les avocats, comme d'autres professions, on a une caisse de retraite autonome. C'est-à-dire qu'elle est financée que par les cotisations des avocats. On n'est pas dans un régime plus général. Bon, cette caisse est excédentaire, parce qu'on a un nombre d'avocats qui cotisent plus important que le nombre de retraités. Donc on a décidé de conserver ces excédents, de les accumuler pour garantir jusqu'en 2080 le financement de la retraite des avocats. Donc on ne veut pas avoir à faire supporter le coût de notre retraite par d'autres professions. Et on verse chaque année 100 millions d'euros au titre de la solidarité nationale à d'autres régimes pour aider à la compensation d'un régime déficitaire. Et la retraite de base d'un avocat qui a cotisé toute sa vie, qui travaille tard, un avocat part généralement assez tard à la retraite, c'est 1 150 euros par mois de pension. Bon. Et qu'est-ce que le gouvernement veut faire en nous mettant de force sans notre accord dans le régime dit universel qu'il veut créer? Il veut doubler notre taux de cotisation pour les avocats gagnant moins de 40 000 euros par mois. Et il veut baisser les pensions de 1 450 000 euros. Donc les avocats ne comprennent pas à juste titre pourquoi, alors que leur régime est excédentaire, on leur baisse d'un tiers le montant de leur pension la plus basse, et on oblige à doubler leur taux de cotisation, ce qui va amener beaucoup de petits avocats à mettre la clé sous la porte. Or, ces petits avocats, ces cabinets, ils défendent qui? Ils défendent pas les grandes multinationales, ils défendent pas les banques, ils défendent pas les milliardaires qui sont les amis de M. Macron. Ils défendent les PME, ils défendent les locataires, ils défendent les femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent ou les maris qui n'ont pas beaucoup d'argent lors du divorce. Ils défendent les gens ordinaires. Donc on va pousser les avocats à mettre la clé sous la porte et les gens ordinaires seront moins bien défendus. Bon, c'est pour ça que les avocats sont mécontents. Et après, la réforme des retraites que porte le gouvernement est une mauvaise réforme. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent alors que 7 Français sur 10 sont contre. Pourquoi? Parce qu'en fait, sous prétexte d'augmenter les retraites des agriculteurs, ce qu'il faut faire, bon, on va en fait baisser à terme les pensions de beaucoup de personnes dans ce pays, y compris des femmes. Bon. Or, le but d'une réforme, c'est pas de tirer les Français, un maximum de Français vers le bas, c'est d'élever le niveau des Français qui ont aujourd'hui un niveau de vie trop bas, ou un niveau de pension trop bas. C'est pour ça que les gens ne sont pas contents. Bon. Et le gouvernement se fait par pure idéologie, et aussi, il faut le dire Arthur, il faut le dire parce que c'est la vérité, pour faire plaisir aux fonds d'investissement ou aux fonds de capitalisation américains ou français, comme par exemple BlackRock, qui ont été reçus en grande pompe à l'Élysée, et qui veulent mettre la main sur le magot de la retraite des Français.
Justement, passeur Cherki, est-ce que finalement, en bout de course, c'est pas ça qui est en jeu, à savoir tout simplement le système de retraite à la française, entre guillemets? Est-ce que les intentions du gouvernement, c'est aller vers un système qui existe en Angleterre, qui existe aux États-Unis avec les fonds de pension, et on a su avec...
Est-ce que c'est cette idéologie ultralibérale, cette philosophie ultralibérale et de soumission finalement à la finance qui anime la politique économique du gouvernement? Bon. Or, si encore ça marchait, Arthur, pourquoi pas? Moi, nous sommes des gens pragmatiques, les Français. Mais ça ne marche pas. Je vais prendre un exemple. Aux États-Unis, il manque aujourd'hui 4 000 milliards de dollars pour assurer la retraite des fonctionnaires américains, les enseignants américains, qui est fondé sur la capitalisation. C'est ça le problème. C'est qu'en plus, on est en train de créer un système qui, bah pour nos enfants et nos petits-enfants, va les appauvrir. On va faire régresser une majorité de Français pour des raisons purement idéologiques ou pour faire plaisir à quelques acteurs de la spéculation financière. Mais c'est un problème. La retraite, c'est vraiment une des choses avec la sécurité sociale qui fait que la France est un pays civilisé.
Alors, parce que, cher Guillaume, on parle beaucoup, bon, il y a tout le débat, âge pivot, est-ce que finalement, ça n'empêche pas de débattre sur une chose importante, c'est la retraite à points. Alors, il suffit de regarder l'exemple suédois, où ça fait une bonne dizaine d'années que ce système à points a existé, eh bien, il y a les gens, les retraités ont perdu un tiers des retraites.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, les syndicats suédois, pour demander à revenir à un régime qui n'est plus celui des points. Bon, pose des questions, il y a des débats très importants dans les syndicats et dans les partis de gauche en Suède, où ils disent peut-être qu'on s'est fait enfler. Bon, moi je serais les syndicats aujourd'hui comme la CFDT qui soutiennent la retraite à points, je réfléchirais à deux fois. Bon, c'est un problème, parce que la valeur du point, qui la garantie? On nous dit on va monter une commission qui va en discuter, mais le jour où le gouvernement décide de reprendre la main et de fixer autoritairement la valeur du point, il le fera. Bon. Quand vous sortez d'un... Les retraites sont gérées par les représentants de la profession eux-mêmes. Bon, les professions eux-mêmes ou des salariés eux-mêmes dans un système à points où finalement, d'une certaine manière, dans cette valeur notionnelle, vous dépendez à terme de la fixation du point par une commission, mais vous pouvez très bien reprendre la main par une loi et décider de le fixer par la loi, vous ouvrez la porte à toutes les régressions possibles. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui sont contre la retraite à points. Et l'âge pivot, ça en rajoute. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous mettez un âge pivot à 64 ans, comme aujourd'hui, il faut que vous cotisiez plus de 42 ans pour avoir une retraite à taux plein, ça veut dire que dans les faits, vous ne retirez pas en 67 ou 68 ans à la retraite. Bon, vous imaginez ce que ça veut dire. Donc c'est la double peine. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y aurait pas l'âge pivot que ça changerait quelque chose au problème. La retraite à point, c'est l'appauvrissement des générations à venir. C'est dans les faits.
Mais parce qu'on sait qu'il y a encore autre chose, le gouvernement a dit on ne va pas de retraite à moins de 1000 euros. Alors, et déjà, le minimum ici, justement, de pauvreté, ça dépasse déjà les 1000 euros. Parce qu'il y a autre chose, c'est que le montant global des retraites ne doit pas dépasser 14% du PIB.
Mais pourquoi ? Ça, c'est pas vrai. D'où on a fixé cette norme ?
Ben, c'est le gouvernement, c'est pas moi, hein.
Oui, et donc cette norme, elle ne correspond à aucune nécessité économique. Mmh. Bon, parce que, et pour être de 15, 16 ou de 17% du PIB, et alors les retraités consomment, les retraités aident leurs petits-enfants, aident leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire ? C'est complètement ridicule. Bon. Et les retraités épargnent et transmettent aussi des petits patrimoines à leurs enfants ou à leurs petits-enfants quand ils décèdent. Donc pourquoi il faudrait arbitrairement fixer à 14% du PIB le montant des retraites ? Bon, ça c'est la première chose. Deuxième élément, si on se projette sur 40 ou 50 ans, oui, on peut s'interroger sur des questions de financement. Bon. Mais pourquoi ? Pourquoi on peut s'interroger ? Parce qu'on a exonéré de cotisations le capital pendant des années. Bon, il faut taxer le capital. Le problème de nos systèmes de retraite, c'est qu'elle taxe le travail. Il faut taxer plus forcément le capital. La CSG, ça ne suffit pas. Vous savez qu'aujourd'hui, on a distribué de manière record des dividendes. Bon, les salaires stagnent dans notre pays. Les 5% les plus pauvres ont vu leur niveau de vie reculer. Et les dividendes sont distribués de manière record. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer au coût de l'évasion fiscale. Il faut s'attaquer aussi, à un moment donné, à la fiscalité du capital qui est trop basse. Vous savez qu'il y a aujourd'hui des cadres dirigeants de sociétés ou des PDG qui préfèrent se faire payer en actions, en dividendes, parce que le prélèvement libératoire, ce qu'on appelle l'impôt que vous payez quand vous faites des profits financiers, peut être moins élevé que l'impôt sur le revenu que vous pouvez être amené à payer des fois. Bon, on est dans un système de fous. On marche sur la tête, de l'argent, il y en a. Mais si vous voulez, ce gouvernement me fait penser, vous avez vu ce film Robin des Bois quand vous étiez petit, le dessin animé de Walt Disney. On dirait le shérif de Nottingham. Je prends l'argent dans la poche des pauvres, des classes moyennes, des petits chefs d'entreprise, des professions libérales qui ne sont pas fortunées, qui font leur boulot, mais par contre, ceux qui ont énormément d'argent, non seulement je leur fous la paix, mais je réfléchis aux moyens d'en faire gagner encore plus. On marche sur la tête.
Oui, sans oublier tout ce qui se passe, la façon comment le gouvernement répond aux mouvements sociaux. Justement, il nous reste 2 minutes environ, parce que je sais que vous êtes avocat. Alors, ce jour-ci, hein, ça s'est passé à Grigny, à Créteil, dans plusieurs quartiers de Paris, des jeunes entre 15 et 17 ans détenus et en garde à vue. Il nous reste 2 minutes, donc c'est des choses que ça faisait longtemps qu'on ne voyait pas en France, non ?
C'est grave, enfin, moi, je trouve ça très grave. Je veux dire, il y a un conflit, il y a une mobilisation sociale contre la réforme du baccalauréat. Bon, quoi qu'on en pense, les mobilisations sociales de la jeunesse font partie des traditions de vie dans notre pays. C'est-à-dire, il y en a eu en 68, il y en a eu en 86, où on a la loi de Vaquier, vous en avez eu en 93 contre le CIP, vous en avez eu 80 en 2005 contre le CPE. Régulièrement, la jeunesse se mobilise progressivement quand elle estime qu'une mesure qui lui est proposée peut être attentatoire à ses droits. Bon. Jamais, jusqu'à présent, un gouvernement ne mettait en garde à vue des lycéens au seul motif qu'ils se mobilisaient. Bon. Quand il y a des violences commises lors des manifestations, oui, c'est un délit. Alors à ce moment-là, vous pouvez être mis en garde à vue. Que ça y est. Mais là, c'est la première fois. En 68, on n'a jamais mis un seul étudiant en garde à vue parce qu'il bloquait son université. On n'a jamais mis en garde à vue des étudiants parce qu'ils bloquaient leur université. En 95 ou en 2006, on n'a jamais mis en garde à vue des étudiants, des lycéens parce qu'ils bloquaient leur lycée ou leur université. Je parle là de pouvoir complètement différent des gouvernements de gauche, des gouvernements de droite. C'est la première fois qu'on assiste à cela. Et je pense que c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que ce gouvernement ne sait plus dialoguer avec la société. Ce gouvernement ne sait plus dialoguer, ce gouvernement est en train de perdre la main, ce président de la République est en train de perdre la main, et donc ils n'ont comme seule réponse progressivement que la force, que la violence. Et ce qui est très grave à terme, je vous le dis Arthur, ce qui m'inquiète, comme avocat, comme homme de loi, c'est qu'on est en train d'affaiblir la relation de confiance nécessaire qui doit exister dans une démocratie entre la police et les citoyens. La police ne peut pas être utilisée comme une milice privée au service des intérêts politiques étroits et partisans d'un gouvernement. C'est d'ailleurs ce qui a fait, par exemple, que le mouvement de mai 68 n'a jamais dégénéré en France. C'est parce que le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, et le préfet de police, Maurice Papon, avaient voulu que la police reste garant de l'ordre républicain, point, mais ne s'implique pas dans le conflit social. Or là, on est en train de transformer la police en milice privée, au service d'un gouvernement et d'une majorité qui n'a plus la confiance des Français. C'est très inquiétant, Arthur.
Pascal Jacqui, merci. Alors, je rappelle aussi que pendant mai 68, le préfet de police avait interdit aux policiers de tabasser les manifestants à terre. Enfin, c'est une autre histoire. Pascal Chéri, merci. Je rappelle, avocat et ancien député. Merci. Et à très bientôt.
Obrigado, Arthur.
Obrigado.
Boa tarde.
Bom, estamos a chegar ao fim, resta meia dúzia de segundos, eu quero dizer obrigado ao Manuel Alexandre, obrigado igualmente a todos aqueles que participaram direto ou indiretamente nesta emissão, e voltaremos no próximo domingo, dia 9 de fevereiro, já poderia avançar um certo número de temas, mas enfim, algumas surpresas, livros não faltam, todos sob uma comunidade anarquista no Alentejo que foi criada nos anos 1920 e por aí afora. E é um belga que escreveu esse livro, a história do Sr. António Gonçalves. Mas enfim, bem-ajam e até para a semana.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho, para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho, para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu, gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de de estar perto de você e entrar no mar.
Esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado em mim. Vou chamar a música, pôr à prova a minha voz, uma trova só.